Comment est votre blanquette?
La blanquette est bonne.
C'est loin, mais c'est beau. Hein.
Tu te rends compte que si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15.
Culturez-vous, une émission pleine de pop, pleine de culture, pleine de pop culture.
Ce n'est quand même pas Harry Potter.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Il s'appelle juste Leblanc.
Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros.
On en a gros.
La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bien le bonjour messieurs, dames et bienvenue pour une nouvelle émission de Culturez-vous, l'émission de pop culture de Transistor. Une émission aujourd'hui pleine de culture mais aussi pleine d'amour. Et oui, on en a toujours besoin de l'amour. Et Dieu sait que dans la pop culture, de l'amour, il y en a. De Bridget Jones à Roméo et Juliette, en passant par Titanic ou encore Amélie Poulain, la culture populaire fourmille d'histoires d'amour et de couples iconiques. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une histoire, mais pas n'importe laquelle. Une histoire d'amour, intense, fulgurante et immortelle qui réunira pour l'éternité le destin de deux âmes damnées. Aujourd'hui, je vous parle du couple de hors-la-loi le plus célèbre qu'il soit. Aujourd'hui, je vous parle de Bonnie and Clyde. De Gainsbourg à Eminem, en passant par Arthur Penn ou Tupac, la culture populaire a toujours adoré le couple formé par Bonnie Parker et Clyde Barrow. Je dirais même qu'elle l'a fantasmé, voire idéalisé. C'est vrai que quand on vous parle de Bonnie and Clyde, on pense tout de suite à un couple de gangsters des années 30, ultra glamour, borsalino sur la tête et vieux flingue à la main. Au fil des années, ils sont devenus le symbole de l'amour fou. Et ont même réussi à faire oublier qu'ils ont été de simples petits braqueurs et des meurtriers de sang-froid. Mais qui étaient vraiment ces deux hors-la-loi? Quelle a été leur histoire et comment sont-ils devenus le couple de criminels le plus connu du XXe siècle? On va essayer de répondre à tout ça en se plongeant dans l'Amérique des années folles et de la prohibition. C'est parti! Je m'appelle Audrey, bienvenue dans Culturez-vous! Quand je vous dis Bonnie Parker, vous allez forcément penser à cette jeune et belle blonde, coiffée d'un béret, l'air provoquant, cigare à la bouche et mitraillette à la main, s'appuyant avec fierté sur une vieille Ford V8. Cette photo, qui a circulé dans le monde entier, est celle qui fige à tout jamais l'image que l'on se fait de Bonnie Parker, la célèbre criminelle. Alors comment cette petite américaine venue du fin fond du Texas en est arrivée à devenir le symbole du banditisme des années folles? Née le 1er octobre en 1910 à Rowena, au Texas, Bonnie Parker est la cadette de trois filles. À l'âge de 4 ans, Bonnie perd son père et déménage avec sa mère et ses sœurs chez ses grands-parents à West Dallas, dans la banlieue de Dallas. Un endroit sordide où de nombreuses familles dans la pauvreté tentent de retrouver un semblant de vie normale. À l'école du coin, la petite Bonnie est une excellente élève. Passionnée de littérature et d'écriture, elle se plonge dans les ouvrages des plus grands poètes et écrivains. Toute sa scolarité, elle va remporter des prix d'orthographe, d'écriture et de récitation. Rien ne la prédestinait donc à embrasser une carrière de criminelle. Mais en 1926, c'est le premier écart. Alors qu'elle a tout juste 16 ans, elle quitte l'école et se marie avec un certain Roy Thornton. Pas forcément le grand amour, mais la jeune fille est fleur bleue et ce petit caïd pourrait très bien faire l'affaire et lui faire passer le temps. Bonnie a besoin d'amour et d'attention. Mais avec Roy, on est plutôt sur les coups et l'abandon. Souvent absent de la maison, il est déjà dans la petite délinquance et laisse régulièrement seule sa femme. Pendant qu'il part en vrille, Bonnie attend. Désespérément qu'il se passe enfin quelque chose dans sa vie. 3 ans après le mariage, Roy est condamné pour braquage de banque. Bonnie ne le reverra plus jamais, mais ne divorcera pas pour autant. Elle gardera même son alliance jusqu'au jour de sa mort. À 19 ans, Bonnie Parker se retrouve donc seule dans sa banlieue. Elle, qui rêvait désespérément de célébrité, se résigne à retourner vivre chez sa mère et trouve un petit boulot de serveuse dans un bar. À cette époque, Bonnie tient un journal où elle écrit, et je cite, « C'est lugubre, on s'ennuie à mourir, il n'y a rien à faire. Si seulement il pouvait arriver quelque chose. » Bonnie rêve d'aventure et du grand frisson. Mais tout va changer l'année suivante, en 1930, quand elle va rencontrer un certain Clyde Barrow.
You put your knife inside my back, and then you kiss my lips. But my lips are made of poison, now there's toxins on your skin. But you get
jump for the hell of it, dancing in the flames. I'm the Clyde to your Bonnie, you're the match to my flame. Let's fuck the world up on some gangster ass love, can make you do crazy things. I'm the Clyde to your Bonnie, you're the thrill to my pain. Let's fuck the world up on some gangster ass love, can make you do crazy things. You cut my flesh in deep blue seas, so sharks can smell my blood in the waters that we swim in, a cyclonic kind of fun. Cause you get off to the pain, and I get off just the same. Rush of adrenaline, jump for the hell of it, dancing in the flames. I'm the Clyde to your Bonnie, you're the match to my flame. Let's fuck the world up on some gangster ass love, can make you do crazy things. I'm the Clyde to your Bonnie, you're the thrill to my pain. Let's fuck the world up on some gangster ass love, can make you do crazy things.
Vous êtes toujours sur Transistor et vous écoutez aujourd'hui l'histoire des bandits légendaires Bonnie et Clyde. Nous sommes donc en 1930. Bonnie Parker, serveuse dans un café, vient, comme 13 millions d'Américains, de perdre son emploi. Et oui, aux États-Unis, c'est l'ère de la Grande Dépression qui commence. Quelques mois plus tôt, le pays a connu un crash boursier sans précédent. Le 24 octobre 1930, appelé aussi Jeudi Noir, sera le déclencheur de la plus grosse crise économique de l'histoire des États-Unis. Les marchés s'effondrent littéralement et ne laissent derrière eux que chômage, faillite et grande pauvreté. La population, qui avait connu un regain économique au sortir de la Première Guerre mondiale, se retrouve plongée dans le chaos et la misère. C'est donc dans un climat de désespoir et d'amertume que la jeune Bonnie Parker, 20 ans, va rencontrer l'homme qui changera son destin. Si le véritable contexte de leur rencontre reste flou, il est souvent raconté que les deux amoureux auraient fait connaissance grâce à une amie commune. Mais la légende romantique dit aussi que Clyde aurait essayé de voler la voiture de la mère de Bonnie, et c'est ainsi qu'ils auraient échangé leurs premiers mots. Plusieurs versions donc, mais ce que l'on peut affirmer, c'est que cette rencontre a eu lieu en janvier 1930. Et quand Bonnie Parker tombe sur Clyde Barrow, c'est le coup de foudre immédiat. Clyde a 21 ans, il est brun, plutôt petit, il a les traits fins et le regard malicieux. Issu d'une famille nombreuse de 7 enfants, il est lui aussi né au Texas, mais à Tellico, une petite ville de campagne. Ce n'est qu'à 12 ans que la famille Barrow atterrit dans le West Dallas. Ses parents étaient de base des paysans, travaillant dans les terres sur un champ de coton. Mais les tempêtes de poussière et les invasions d'insectes provoquent leur chute et les poussent à aller chercher des emplois du côté de la ville. Alors, comme beaucoup d'exclus et de crève-la-faim, ils s'installent à West Dallas, mais la dèche reste de mise.
Vous êtes sur Transistor et vous écoutez Culturez-vous.
Avec ces conditions, l'enfance de Clyde est forcément un peu chaotique et le jeune Texan doit se débrouiller pour survivre. Il espère sortir au plus vite de son trou boueux et faire rapidement oublier ses origines. Toujours bien apprêté, il est coquet et veut être à la mode. Mais tout a un prix et Clyde n'a pas un sou en poche. Ses premiers vols sont commis avec son frère Buck. Les deux se mettent dans des petites combines sans envergure, mais qui lancent quand même les policiers sur leurs traces. La première, c'est une histoire de voiture volée, alors qu'il n'a que 17 ans. Et oui, les bagnoles seront à jamais le péché mignon de Clyde. Il ira même jusqu'à écrire à Henry Ford pour lui déclarer son amour pour sa marque de voiture. Sans réponse, bien sûr. Il enchaîne ensuite avec des vols de dinde et un braquage. Pas franchement du grand banditisme, mais ces délits commencent à faire connaître les frères Barrow dans le coin, comme le confirme leur sœur Marie.
La famille était fauchée et les temps étaient durs. Ils n'avaient pas un sou en poche. Je crois que très tôt, ils voulaient des choses qu'ils ne pouvaient pas avoir. Le meilleur moyen, c'était de les voler. Après, Clyde a eu des ennuis. Et à chaque fois qu'il arrivait quelque chose, on lui mettait sur le dos. Il l'arrêtait et il pensait tout le temps que c'était Clyde ou Buck qui avait fait le coup. Je savais que c'était faux. J'aimais mes deux frères et je ne crois pas qu'ils aient fait la moitié de ce dont les journaux les ont accusés.
Clyde Barrow est donc déjà dans le viseur de la police locale quand à 21 ans, il rencontre Bonnie Parker. Elle est belle, coquette et intelligente. Clyde tombe aussi sous son charme et les deux tourtereaux commencent leur relation au début de l'année 1930. Oui, mais voilà, les méfaits de Clyde le rattrapent. En mars de cette même année, il est condamné à 14 ans de prison. Pour Bonnie, c'est le drame. Encore une fois, elle se retrouve seule. Alors, encore une fois, elle se réfugie dans l'écriture et envoie à Clyde des lettres enflammées dans lesquelles elle lui déclare son amour passionné. Oui, mais voilà, Clyde a besoin de plus que des mots et Bonnie est prête à tout pour son amant. Même à braver la loi. Quelque temps seulement après son incarcération, Bonnie vient en aide à Clyde en lui apportant un revolver dissimulé sous sa robe. Ce sera le premier pas dans sa nouvelle vie de criminel. Clyde réussit donc à s'évader de la prison du comté grâce à sa dulcinée. Mais sa cavale sera de courte durée. Le couple est complètement désorganisé et n'avait pas réellement anticipé cette évasion. C'est donc seulement une semaine plus tard que Clyde est rattrapé par la police. Il est donc à nouveau condamné, mais cette fois ce n'est plus la prison classique de Waco qui l'attend. Le juge décide de l'envoyer au centre pénitentiaire de Listham Farm.
Vous écoutez Culturez-vous sur Transistor, présenté par Audrey.
Cette prison est considérée comme la pire du Texas et on comprend pourquoi. 14 heures de travaux forcés en plein cagnard, des gardiens tortionnaires et une vie de calvaire. Clyde Barrow se fera violer plusieurs fois par son co-détenu. Avide de vengeance, il le tuera à coups de barre de fer. Ce meurtre sera le premier, mais pas le dernier pour Clyde. Et même si c'est un de ses camarades de détention condamné à perpète qui se désigne comme coupable, Clyde est d'autant plus dans le viseur de ses geôliers. Bien décidé à sortir de cet enfer, il choisit alors une solution radicale. À l'aide d'une hache, il se tranche deux orteils, espérant ainsi être transféré à l'hôpital ou au moins dans une autre prison. Mais c'est peine perdue à Istam, il en faut plus pour émouvoir, surtout quand on parle de détenus. Alors Clyde, amputé, reste dans son trou. Mais c'était sans compter la détermination de sa mère. Pendant des semaines, elle va harceler le directeur, voire plus, en demandant la libération de son fils. Elle obtiendra gain de cause et Clyde Barrow sera libéré en février 1932. Clyde n'a pas du tout prévu de se ranger, bien au contraire. Il décide même de former son propre gang, le gang Barrow.
Clyde et moi, on a commencé à aller voir dans les prisons. On recrutait des extolars. Dans le gang, il y avait Clyde, moi et Raymond Hampton, qui venait de sortir de prison. Et Bonnie Parker y est entrée par accident.
Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle. Son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom
Bonnie Parker
et Clyde Barrow.
Si dans sa chanson, Gainsbourg parle uniquement de Bonnie et Clyde, quand il parle du gang Barrow, il faut savoir qu'en réalité, ils étaient plus nombreux. En même temps, il faut dire qu'en pleine période de prohibition, les bandits et les gangsters, c'est pas ce qui manque. C'est une époque où on peut quand même voir le roi de la pègre et empereur des voyous Al Capone faire la une du Times. Forcément, ça suscite de nombreuses carrières chez la jeunesse américaine. Après tout, pourquoi se tuer à la tâche pour un salaire de misère quand on peut rouler sur l'or grâce aux flingues ? Dans le gang Barrow, comme dans beaucoup d'autres, se succèdent pas mal de petites mains. Dehors la loi de bas étage, qu'il ne reste pas plus de quelques semaines ou quelques mois. Si l'on retrouve le frère de Clyde, Buck, pendant un certain temps, on retiendra aussi le nom de Raymond Hamilton. Raymond, en plus d'être le complice des braquages d'épicerie et autres petits larcins, est aussi l'amant de Clyde et Bonnie. Et oui, ceux qu'on imaginait totalement dévoués à leur amour mutuel étaient en fait un couple libertaire qui n'hésitait pas à partager des amants. Clyde n'hésitait pas non plus à laisser Bonnie toute seule pour partir pendant des semaines avec d'autres membres du gang.
Une émission de culture populaire, c'est Culturez-vous sur Transistor.
Nous avons donc notre gang Barrow. Bonnie, Clyde, Raymond et les autres. Tous ne sont finalement que de petits braqueurs. Et oui, dans l'imaginaire collectif, on les voit très classe, dans leur tenue des années 30, mafieux en costard 3 pièces pour Clyde, jupe crayon et béret élégant pour Bonnie. Alors si on leur accorde à tous les deux une attention particulière sur leur présentation, dans le fond, on reste quand même sur du petit hors-la-loi qui travaille au jour le jour sans trop de préparation. Épicerie, boucherie, station-service sont plus au menu que les braquages de banque. Oh oui, il y en a bien eu quelques-unes, mais on n'est clairement pas sur la spécialité du gang. Par contre, ce qui commence à devenir habituel, ce sont les cadavres qu'ils laissent derrière eux. Plus ils volent, plus ils tuent. Enfin, il. Je devrais plutôt dire Clyde tue. Un patron qui ne veut pas donner sa caisse, un employé de station-service un peu trop nerveux ou des policiers qui se rapprochent de trop. Pour Clyde, le coup peut partir très vite. Mais selon son neveu, Buddy, tous ces meurtres pèsent sur Clyde, qui se justifiait par un esprit un peu facile de « c'était lui ou moi ».
Sa sœur lui avait demandé ce que ça faisait de tuer quelqu'un. Il lui avait répondu qu'il en était malade à chaque fois. Il avait ajouté « ils sont armés et moi aussi. Ils essaient de me descendre et moi, je veux juste m'enfuir ». Il a ajouté « je me sens mal. J'ai la nausée en pensant aux gens dont j'ai pris la vie. Mais c'était eux ou moi ».
Bonnie, elle, attend la plupart du temps dans la voiture que les gars aient fini leur affaire. Et quelles affaires ! Quasiment à chaque fois, les butins atteignent à peine les 50 à 60 dollars. Alors pourquoi ? Pourquoi sont-ils aussi connus ? Après tout, un pseudo-gang qui vole des petits commerces au Texas et dans les états alentours, on peut pas dire que ce soit très vendeur. Mais il faudra un événement inattendu pour changer le cours de l'histoire. Alors que le gang Barrow est en planque dans un appartement de la ville de Joplin dans le Missouri, il reçoit la visite de Buck, le frère de Clyde, avec sa femme Blanche. Au même moment, la police décide de faire une descente dans la planque pour rattraper ces bandits tueurs de flics. Il s'en est fallu de peu, mais le gang Barrow réussit à échapper à la police et à s'enfuir. Pris de court, tous laissent derrière eux une multitude d'affaires, dont une pellicule de photos qui va changer leur destin.
L'histoire de Jesse James. Comment il a vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle. Son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom
Bonnie Parker
et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
On prétend que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
un garage ou qu'une banque se fait braquer,
pour la police ça ne fait pas de mystère.
C'est signé
Clyde Barrow,
Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger,
de s'installer tranquille dans un meublé,
dans les trois jours, voilà le tac tac tac.
Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Un de ces quatre tomberont ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble.
Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi Bonnie je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
De toute façon il ne pouvait plus s'en sortir.
La seule solution, c'était mourir.
Mais plus d'un les a suivis en enfer.
Quand
quand sont morts Barrow et Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Vous écoutez toujours Culturez-vous, l'émission de pop culture de Transistor. Et ce que vous venez d'entendre, c'est l'interprétation du poème The Trail's End, la fin de la piste, écrit par Bonnie Parker elle-même. Et oui, même s'il a fait quelques arrangements, c'est bien elle, l'auteur de ce morceau devenu lui aussi iconique. Mais revenons à notre histoire. Nous sommes arrivés en avril 1933 et les amants ont dû fuir leur logement après une descente de police en laissant derrière eux une pellicule photo encore intacte. La police développe la pellicule et découvre tout un lot d'images du couple de gangsters. Cette série de photos va créer le mythe Bonnie and Clyde. Sur les photos en noir et blanc, on les voit prendre la pose et jouer avec l'objectif. Bonnie, toujours coiffée de son béret, qui menace Clyde, faussement apeuré avec un canoncier devant leur Ford V8. Clyde, portant Bonnie, à bout de bras, sourire aux lèvres, ou encore les deux amants qui s'embrassent langoureusement. Mais l'image qui va marquer l'Amérique, c'est une photo solo de Bonnie. On la voit, cigare à la bouche, flingue à la main et posant fièrement le pied calé sur le pare-choc de leur bolide. Cette image, qui va choquer toute la population bien-pensante du pays, c'est l'image d'une femme qui fume un cigare. Et oui, si le pistolet ne pose pas de problème, c'est bien le cigare qui va ancrer son image dans la catégorie « fille de petite vertu qui ne vaut pas grand-chose ». Oui, chez les puritains, ça va très vite. Mais chez les médias aussi. Les journaux, qui ont réussi à récupérer les images, ont vite compris le potentiel du couple. Ils fascinent autant qu'ils insupportent, et ça, ça fait vendre. Et peu importe si leurs histoires sont un peu exagérées, pas forcément vérifiées, tant que le public accroche et achète les journaux. La popularité du gang dépasse rapidement les frontières du Texas, ce qui agace d'autant plus les autorités, et particulièrement un certain J. Edgar Hoover. Le chef de ce qui allait devenir le FBI est bien décidé à stopper le succès et les méfaits des Barrow. Et pour cela, il fait appel à un ranger du Texas particulièrement redoutable, Frank Hammer. La consigne est simple, ramener ses criminels, morts ou vifs. Il lance alors toute une équipe à leur trousse et prépare le guet-apens qui leur sera fatal. Nous sommes le 23 mai 1934. Hammer et son équipe ont su de sources sûres que le couple est parti pour braquer une banque près d'Arcadie en Louisiane. Ils décident de se mettre en planque sur leur itinéraire pour leur tendre une embuscade. À 2h du matin, les 6 policiers se mettent en place dans les fourrés et attendent patiemment l'arrivée du couple. Ce n'est que vers 9h qu'ils entendent une Ford V8 arriver en trombe. Après quelques secondes de doute, Clyde est bien identifié comme étant le conducteur. Hammer et son équipe le savent, Clyde Barrow est un sacré bon tireur et s'il a une chance de pouvoir viser, il risque fort d'atteindre sa cible. Alors, quand le top départ est donné, tous les agents dégainent mitraillettes et fusils à pompe et tirent dans la voiture qui dérape sur le bas-côté. Ce ne seront pas moins de 150 balles qui furent tirées sur la Ford et ses occupants. Un vrai massacre. Selon les récits, Clyde, 25 ans, serait mort sur le coup, contrairement à Bonnie, 23 ans, que l'on aurait entendu gémir avant de succomber. La police, pour satisfaire sa hiérarchie et prouver leur mort, exposera leur dépouille au public. Bonnie, bien consciente de ce qui les attendait, avait de son vivant demandé à sa mère d'enterrer son cadavre auprès de Clyde. Mais ni sa mère, ni celle de Clyde n'acceptera cette dernière volonté. Ils sont donc tous les deux enterrés au Texas, mais dans deux cimetières différents. Lors de leurs funérailles, ce sont plus de 20 000 personnes qui se sont déplacées. C'est dire s'ils étaient devenus populaires. Et quasiment 90 ans plus tard, la donne n'a pas changé. Si on continue de trouver de nombreuses chansons, en référence au couple de gangsters, on les retrouve aussi dans de nombreuses séries, comme Les Simpsons, Charmed, ou même plus récemment, Euphoria. Vous trouverez bien sûr des films, le plus connu étant celui de 1967, d'Arthur Penn, qui a totalement glamourisé le couple. Mais on trouve encore aujourd'hui des anniversaires, des mariages ou autres bamboches sur le thème Bonnie and Clyde. Et l'Amérique restant l'Amérique, vous pouvez même vous faire un road trip sur les traces de Bonnie and Clyde et séjourner dans une de leurs planques, ou même vous rendre au musée ou au festival Bonnie and Clyde à Gippsland en Louisiane. Et oui, il n'y a pas de petit profit. God bless America. Et voilà, c'est fini pour l'émission du jour. J'espère que ça vous a plu et que vous en demanderez encore. Alors écoutez la prochaine émission de Culturez-vous sur Transistor. Et en attendant la prochaine histoire de culture pop, je vous fais des bisous, des bécos et vous dis à tantôt. Aye, oh, let's go. Aye, oh, let's go. Aye, oh. Comment
Bon, et votre blanquette?
La blanquette est bonne.
C'est loin, mais c'est beau, hein.
Tu te rends compte que si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15.
Culturez-vous, une émission pleine de pop, pleine de culture, pleine de pop culture.
Ce n'est quand même pas Harry Potter.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Ah bon, il n'y a pas de prénom. Il s'appelle juste Leblanc. Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros.
On en a gros.
La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.